Nous entamons une étude sur les Perkei Avot avec le Sefer Toldot Shimshon du Rav Shimshon Haim Lahmadi, Baal Zera Zera Shimshon. Il raconte que cette étude soit portée au bénéfice du Bachour Binyamin Yaakov Ben Zohar Itrout, que cette étude soit dédiée à sa guérison. Guérison totale, Arichut Yamim Moshtat Haim, que Kadosh Baruch Hu lui octroie une longue vie à lui et à tous les malades d'Israël. Chers amis, Hashem Alechem Tihyo Lorechem Tomim Shanaimim. Donc, comme je l'ai dit, nous entamons une étude sur les Perkei Avot. Les Perkei Avot, nous avons l'habitude d'ouvrir, d'introduire chacun des chapitres des Perkei Avot par la Mishnah, Kol Israël Yeshlem Helek Yorlam Abba. Tout Israël, chacun d'Israël, a une part au monde à venir. Comme il est dit dans le verset, c'est un verset dans Isaïe, chapitre 60, « Ve'amer kulam sadikim » et ton peuple est un peuple de justes. Les Olam Yeshuares, toujours, ils héritera pour toujours la terre. De quelle terre il s'agit? De la terre, de la terre éternelle. « Netzer » Le plan, le rejeton de ma plantation que je plante de mes mains, l'œuvre de mes mains, Maase Adai. Avec ça, ce sera la glorification du nom de Dieu. Ça, c'est la Mishnah. Il s'agit d'abord de s'interroger sur l'usage. Pourquoi on a, d'où, comment ça est venu l'idée d'introduire les Perkei Avot avec cette Mishnah? De plus, comment le Tana dit, Kol Israël Yeshlaem Halek Laraba, tout le monde a une part dans le monde futur. Et juste après, la Mishnah, elle continue, Loin et Veloen Shalem Halek, voici ceux qui n'ont pas droit. De plus, nous pouvons constater que quand le prophète dit, Ve'amer Kolam Sadikim, ton peuple, il n'y a que des justes dans ton peuple. Mais nous constatons, nous voyons de nos yeux, que tout le monde, que c'est loin d'être une vérité, c'est une contre-vérité même, nous pouvons dire. Deuxièmement, en plus, quand il dit « Kol Israël », le mot « Kol », ça vient inclure. Pourquoi? C'était pas suffisant de dire « Israël, Yeshlem, Haïlak, Alamaba ». Pourquoi « Kol » On dirait que ça vient inclure quelqu'un qui n'est pas dans Israël, ou quelqu'un qui vient, on vient rajouter quelque chose. C'est pas suffisant de dire « Israël ». Après, il amène une preuve. Pourquoi il a besoin d'une preuve? Pourquoi le Tana a besoin d'une preuve d'un verset? Il affirme quelque chose qui, a priori, est logique. On peut l'expliquer, malgré tout. Malgré toutes les questions, on peut l'expliquer, on peut le comprendre, on peut l'admettre. Pourquoi a-t-il besoin d'un verset? Parce qu'a priori, quelqu'un qui apporte un verset, c'est parce que ce qu'il dit n'est pas tellement évident, n'est pas tellement acceptable. Alors il apporte un verset. Et que dit le verset? Ve'amer kulam sadikim. Et ça aussi c'est pas juste. Ça aussi, qu'est-ce que le pasouk ajoute sur l'affirmation du Tana? Et en plus, on ne comprend pas la nécessité d'amener tout le verset. Il était suffisant d'apporter que la première partie. Il veut dire que tout Israël a une part dans le monde futur. Alors dit simplement ve'amer kulam sadikim. Point final. Le olam yeshuaret. Le plan que Kadosh Baruch Hu prend, il met des plans sur terre, et c'est l'action de ses mains, il va, etc. Tout ça, ça ne sert à rien, on ne sait pas qu'est-ce que ça vient faire ici. Et même le pasouk lui-même nécessite une analyse. Comment le début du pasouk se complète avec la fin? Est-ce qu'ils sont liés? Comment ça se lie tout ça? Alors nous allons essayer d'analyser. De plus, le Rav Shimshon pose la question. Il dit, quand on dit ma netzer mata'ai, le plan que je mets en terre, mata'ai, de ma plantation. Mais on ne sait pas marquer ma plantation, de mes plantations. Mata'ai, c'est un pluriel. Mais en vérité, dans le pasouk, il y a un kéri et un kétiv. Le kétiv, la manière d'écrire, c'est mata'o, au singulier, sa plantation. Et nous lisons mes plantations. Faut comprendre la différence. Pourquoi? Qu'est-ce que cela vient ici ajouter? Et quelle est l'idée qui est sous-jacente de cette différence entre l'écriture et la lecture? Alors, le Rav commence son développement. Il dit, l'intention du Tana, En disant Kol Israël, le mot Kol vient inclure et d'exclure les nations. Les nations n'ont pas de part dans le monde futur, de part, de Helek. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de monde futur. Ils n'ont pas de Helek. Et on va souligner la notion de Helek. Ce terme ne peut s'appliquer qu'à Israël. Comme dit le verset, qui Helek a donné un mot. Il y a marqué que la part de l'Éternel sur cette terre, c'est son peuple. Donc il y a un terme, la part, le Helek. Et on va voir cela, que ce mot Helek traduit une particularité de la relation entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Quand on voit un grand maître d'Israël, on doit faire une bracha. Quelle bracha fait-on? Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi du monde. Shehalak Mechochmato Yereav. Qui a partagé de son savoir à ceux qui le craignent. Shehalak Mechochmato. Il a partagé. C'est comme si qu'on est Dieu concède une partie de son savoir à l'homme. C'est-à-dire que quand on partage, on est lié. Alors que devant un savant des nations, un grand professeur, un génie, quelqu'un qui a eu le prix Nobel, qui a inventé un médicament qui sauve le monde, etc., les gens, alors quel bracha? Il faut faire une bracha, c'est sûr. Alors quel bracha? On dira, chez Nathan, Mechochmato, le Bassar Adam, qui a octroyé de son savoir à l'homme. Il n'a pas partagé avec lui, il lui a donné. Le fait de donner, c'est comme si qu'il y a une distance entre la personne qui donne et celui qui reçoit. Et c'est, alors que celui qui partage, il y a une ça note, ça traduit la proximité entre les individus. Sur le verset, il y a un verset dans Yov qui dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Le Midrash, c'est un verset dans Yov qui dit, Efo Aïta, Beyasdi Eret. C'est Job au chapitre 38. Le Midrash dit, les Bnei Israël sont qualifiés d'Adam, mais les nations ne le sont pas. Adam, c'est homme. Mais quel homme? Les Goïm aussi sont des hommes. C'est quoi cette histoire-là? C'est du racisme? Non, pas du tout. On dit pas qu'ils sont pas des hommes, on dit qu'ils sont pas qualifiés de Adam. C'est autre chose. C'est un autre concept. Les Mkoubalim disent, de quoi il s'agit? Adam, qui c'est Adam? C'est Adam Arishon. Alors les Mkoubalim disent que tout Adam Arishon, quand il était dans le Gan Eden, au début de la création, il avait un corps fluide, pur, raffiné, qui était loin d'être comparable à notre corps. Il était plus fluide et raffiné que celui des anges. Puisque les anges, la Gemara elle dit que les anges ont un corps raffiné, un corps fluide, de fluidité, qui fait 4000 km de large. Donc, mais quand, c'est quoi? C'est de l'air? C'est moins que de l'air? C'est un gaz imperceptible? C'est matière, mais matière fluide totale. Le corps d'Adam était encore d'une fluidité beaucoup plus puissante que celle-là, plus parfaite. Il compte son corps contenait toutes les âmes d'Israël. Alors, les âmes d'Israël se disposent dans le corps d'Adam. Il y en a qui sont des âmes qui sont au niveau de la tête, au niveau du cou, au niveau du buste, des bras, des jambes, etc. Et chaque, c'est-à-dire elle s'habille ou elle s'installe dans les organes de Adam Arishon. Et alors Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu le fait pénétrer dans le Gan Eden et lui enseigne la Torah comme il dit les Shomra, les Avda ou le Shomra. Akadosh Baruch Hu l'a installé dans le Gan Eden, il le place là pour que Adam s'adonne à la Torah. Les Avda, c'est accomplir les mitzvot positives. Et les chomras, garder, observer, ce sont ne pas transgresser les mitzvot négatives. Mais au niveau d'Adam, il n'y a pas encore l'accomplissement des mitzvot. C'est, tout ça était au niveau de l'intellect, de la compréhension profonde. Alors, Akadosh Baruch Hu lui transmet ces mitzvot. Le sens des mitzvot, l'étude des mitzvot. La Torah, il lui transmet. Et le Midrash dit là-bas que quand Adam était en train d'apprendre cette Torah de la bouche de Dieu, alors que se passe-t-il? Comment réagit-il lui-même? Alors nous dit le Midrash que quand Kadosh Baruch Hu place l'homme et lui enseigne la Torah, alors de cette Torah, l'homme en retire la plus grande jouissance imaginable. Est-ce qu'on peut plus imaginer la plus grande, le plus grand plaisir, la plus grande jouissance qu'il peut y avoir sur, dans la création? Son corps et chacun de ses organes, chacun de ses membres se délecte de la sublime féerie. C'est un rayonnement extraordinaire. C'est un enchantement merveilleux, un ravissement éblouissant. Et chaque organe collecte et rassemble, prend, saisit les lumières qui sont diffusées. Et on reçoit sa part. C'est ça la part. Donc c'est cette part-là, c'est ça la part. Kol Israël Yeshlem Helek Le'olam Haba. Cette part-là que tu as obtenue lorsque tu étais, toi, dans le corps de Adam, et que cette lumière extraordinaire qui a émané au moment où Adam étudiait la Torah, la jouissance, la lumière que tu as su saisir, toi, âme. Alors c'est cette lumière-là, c'est ta part dans la Torah que tu dois récupérer. C'est ça la part que tu as, tu dois la récupérer. Et après l'homme faute. Alors l'homme faute, qu'est-ce qui se passe? Donc l'homme il dégrade la création. Donc les mondes se détachent et s'épaississent, deviennent matériels. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? Le serpent qui n'était la structure de l'impureté, de la Touma, était comme sous perfusion. Elle était existante, mais au niveau minuscule, en modèle réduit. Par la faute, alors c'est un petit... Imaginons que c'est une structure énorme, comme la forme d'un homme, disons, mais en modèle réduit, elle fait un centimètre. C'est ça le serpent, le Kohatum'a, avant la faute et de ce concept-là, de cette dimension. L'homme en fautant, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que le petit bonhomme, le petit soldat de plomb de 1 cm, il devient une structure énorme. Il a pris une ampleur terrible. Il a libéré son ampleur. Et il se forme une grande structure à l'image de Adam lui-même, qui est la structure de Kdusha. Et là, les âmes, certaines âmes, pas toutes, des âmes qui se trouvaient dans le corps de Adam à certains niveaux de son corps, de ses organes, tombent de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle la sitracha. Tomber de l'autre côté. Donc il y a des âmes qui étaient dans le bus de Adam. Donc avec la dégringolade des mondes, donc certaines âmes sont tombées de l'autre côté. Et elles sont sous l'emprise, enfouies, emprisonnées, étouffées par les Kohat Atouma. Comment va-t-on les récupérer? Alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il va permettre à partir de là la réparation des mondes. C'est quoi? C'est l'espace-temps qui va prendre une dimension. Et l'espace-temps, génération après génération, au fil du temps et au fur et à mesure des générations, les hommes amènent des enfants au monde. Donc plus on accomplit la mitzvah de Piria Virivia, et plus ces âmes-là viennent dans le monde. Donc c'est même les âmes qui étaient enfouies, emprisonnées du mauvais côté. Et à ce moment-là, par l'application de Torah et mitzvah, elles ont une chance, on leur donne une possibilité, une opportunité de se réparer. Ça, c'est la raison d'être de la, et donc, automatiquement, elles peuvent récupérer leur part. C'est ça ce que le Tana veut nous transmettre. Le Tana dit, tout Israël possède une part. Même ceux qui sont tombés de l'autre côté. Kol Israël. Car l'Éternel trace ses voies afin que celui qui a été banni de sa présence ne soit pas jamais repoussé. Comme ça dit Shmuel. C'est-à-dire, l'oïdah, mimenonidah. Akadosh Baruch Hu, il fait des calculs. Comment faire en sorte que même celui qui est loin, qui est tombé, repoussé de l'autre côté, dans l'autre côté, donc dans l'autre structure, celui-là, comment je vais le récupérer? Akadosh Baruch Hu, il a des chemins, des voies. Il fait des tarboulot pour récupérer tout ça. Que personne ne soit perdu. Ne soit à jamais repoussé définitivement. C'est-à-dire, comment que toutes les âmes qui sont qualifiées d'Israël, seront ramenés à réparation par l'élimination d'escories qui se sont glissées, infiltrées et en elles au moment de la chute. Cependant, celles qui ont subi le processus inverse, il y a des âmes qui ont subi le processus inverse, c'est-à-dire que la bonne partie, la partie positive, bonne, leur a été retirée, et ils ne contiennent plus que des toumas, des défauts. Celles-là n'ont plus aucune part. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'appellent même plus Israël. Le Tana de notre Mishnah nous propose alors un verset pour soutenir sa thèse. Qu'est-il dit? À la fin des temps, tous ceux qui seront qualifiés d'Israël, ne seront que des justes. C'est ça ce qui a marqué. Gamer kolam tzadikim. De sorte qu'il faut lire la Mishnah en intégrant les deux, la Mishnah et le Passouk en même temps. Tout Israël, c'est-à-dire les tzadikim, ceux qui mériteront le monde futur, ceux qui garderont le qualificatif d'Israël. Ceux-là hériteront de la terre c'est le Olam Haba, la terre éternelle. Il y a bien aussi parmi les justes, cependant, parmi les justes, des gens qui n'ont pas totalement réussi à atteindre la perfection qu'on recherche. Et le raffinement parfait de la traite. Pour remédier à cette objection, le Tana est dans l'obligation de se servir de la fin du verset. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas, donc Kakashbukhu, il les a fait venir. Et malgré tout, tu vois que ça marche pas vraiment. C'est-à-dire que le gars, il n'est pas vraiment sadique. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Hachem le plante. Il plante. Il greffe. Il fait des boutures. Il fait des moutures, etc. Pourquoi? Pour faire en sorte que c'est-à-dire il ramène des Gilgoulim, c'est le sod à Gilgoul, le Gilgoul et le Haïbour, il fait revenir les âmes de toutes sortes de manières, des très complexes, comment les âmes qui doivent trouver réparation par des infinis de moyens, les voies de l'Éternel sont impénétrables. C'est le sens de la comparaison avec le jardinier. Tout comme le jardinier qui opère sur ses plantes pour les développer, il greffe certains plants. Pour d'autres, il exécute des boutures. Ou parfois, il est marcotte. Marcotte, ça veut dire les avrir. Ça veut dire qu'on prend une branche, par exemple, d'un arbre, et on la met en terre. Ça veut dire elle est plantée en étant encore rattachée à la mer, à l'origine. Et après qu'elle a poussé, on la coupe, on la sépare. Et ça s'appelle mavrir, c'est Melachon Bracha. C'est ce qu'en français on appelle ça marcoté. Les boutures, c'est quand on coupe de l'arbre et on plante. De manière, d'abord on sépare et après on plante. Là, d'abord on plante et après on sépare. C'est Melachon Bracha. Donc cette notion-là de les avrir, ça donne une Melachon de Amshachat Hashefa. C'est-à-dire on fait en sorte de répandre la vie. Que la vie se répand, ne soit pas interrompue pour l'âme en question. Donc tous les moyens sont bons pour que Hachem arrive à ses fins et répare toutes les âmes d'Israël, toutes les âmes qui le méritent. Job, il dit bien quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit, Job? L'Éternel a exempté mon âme de traverser l'abîme. Ma vie jouira encore de la lumière. Voilà que cela, le Seigneur Tout-Puissant le fait deux ou trois fois. Pe'amim Shalosh, il fait ça, c'est-à-dire il fait ramener l'homme de Gilgoul. Deux fois, trois fois, parfois même plus. Ici, il y a le Sod à Gilgoul, comme est marqué dans le Mkoubalim, comme est marqué dans le Zohar, Parashat Mishpatim, comme il dit le Hari, dans Shari Gilgoulim, etc. Du fait que les différents aspects de cette régénération, ce qu'on appelle la réintégration de l'âme dans réintroduction des âmes dans ce monde, il y a plusieurs manières, émanent tous de la même source. Le Hari dit que ça vient de la même racine, la même plantation. C'est pour ça que la plantation elle est marquée au singulier, mitaro. Mais il est lu au pluriel, matai, de sorte qu'il englobe tout. Il y a plusieurs moyens, mais tout est relié à la même source. Donc les choses se réalisent de mille manières, mais sont toutes liées à la même idée de réparer les âmes, parce que toutes les âmes en fait sont liées au départ. C'est alors que l'Éternel peut se glorifier de l'œuvre de ses mains, ces créatures qui, après maintes péripéties et périples hasardieux, c'est-à-dire on revient sur terre, on ne sait pas ce qu'on va devenir, parvient enfin à cette perfection. Il nous est permis de proposer que les greffes et les marcottes de ces plans ou âmes se font par l'unique volonté de Dieu. Dans le sens Mataï, moi je veux les faire, qui s'abattent sur les hommes comme des décrets qui sont arbitraires, qui ne tiennent pas compte des aspirations des hommes. En effet, certains chachamim, certains justes, illustres, subissent malgré eux ces boutures et ces marcottes. Ils doivent réintégrer ce monde alors que la perfection est à leur portée. C'est-à-dire on les retranche de ce monde, on les retire de ce monde avant qu'ils n'arrivent à la perfection. On leur dit, ah, je veux terminer. Ils disent, non, c'est pas la peine, on t'enlève. Moshe Rabbeinu, par exemple. Moshe lui-même n'a pas eu le loisir de finir son œuvre. Il désirait pouvoir vivre encore, afin d'y parvenir. Mais la volonté suprême l'en a empêché. Et le Zohar dit que son homme va revenir sur terre des dizaines, dizaines, dizaines de fois pour arriver à faire le tikkun. Cependant, Daniel, lui, il n'a pas eu à passer par ce déboire. Il y a marqué à la fin de Daniel. Et toi, Daniel, terre ta noir, va, toi, Daniel, va te, tu vas aux caisses, tu vas mourir. Et tu vas te reposer. Et tu te relèveras. Tu relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. C'est-à-dire que tout le temps, il dormira, il ne revient pas en Gilgoul. Nous pouvons même proposer que l'écriture, le singulier de l'écriture Mataon, est justifié par le fait que souvent, c'est le laisser-aller des individus qui leur manque de conviction, qui oblige la Providence à les reconduire en ce monde pour compléter ce qui n'a pas été réalisé. Ils auraient en vérité pu très bien ressembler à Daniel et ils ne l'ont pas fait. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'Akashvokhou le fasse. Alors lui, BMS, le Mat'o, il était un au départ, mais seulement les hommes en ont fait Mat'aï. Donc Akashvokhou est obligé de les ramener, les ramener, les ramener pour les réparer. Ça c'est le sens, et en fait ce pirouche-là que nous voulons dire, c'est le sens de ce que dit Rashi. Rashi dans Sanhedrin, il dit quelque chose d'étonnant. La Mishnah dit « Kol Israël, Yishayin Karan Rabba ». Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après qu'il a expliqué dans les chapitres précédents, tous ceux qui sont passibles de mort, toutes les quatre mitotes, qui étaient condamnés à mort, etc., etc. Maintenant, il parle de ceux qui n'ont pas droit au monde futur. Mais c'est étonnant que Rashi dise cette explication sur le mot qui dit « Tout Israël a droit au monde futur ». C'est pêlé. Il aurait dû dire ça sur la suite de la Mishnah et pas le début. Beaucoup s'étonnent et s'interrogent sur les intentions de Rashi. Et le Rav dit, voilà, c'est ça le pshat de Rashi. C'est quoi? C'est-à-dire que quand Rashi dit, ceux qui sont passibles de mort, ils ont été condamnés, même ceux qui sont condamnés à mort parce qu'ils ont fait des fautes, malgré tout cela, ils peuvent avoir droit au Olam Haba. Parce que tout Israël a droit au Olam Haba. Tout celui qui est appelé Israël, comme nous l'avons expliqué, qui fait partie de ceux qui sont majoritairement bons, qui vont éliminer le mal pour être considérés comme Israël, alors ceux-là, ils ont toujours droit à la Mabba. Et Akash Bokhou utilise toutes sortes de chemins et de détournés pour les faire réparer, pour les réparer. Mais il y en a qui ne sont pas appelés Israël. Quels sont-ils? Ceux qui n'ont pas droit à la Mabba. Ceux-là, ils sont tout mauvais, donc ils sont éliminés. Le bien, le bon de qu'ils possédaient a été retiré. Donc ceux-là, ils n'auront pas droit à Olam Haba. C'est ce que dit Rashi. Après qu'il a expliqué ceux qui sont passibles de mort, maintenant il va dire ceux qui n'auront pas Olam Haba. Qui c'est? Alors ils disent, quels sont ceux qui ont droit à Olam Haba? Kol Israël. Mais ceux-là, ils ne s'appellent pas Israël, donc ils n'auront pas droit. Maintenant le Rav va expliquer, va essayer d'expliquer la raison pour laquelle on lit ces on introduit les Mishnayot de Perkaot par cette Mishnah. En effet, c'est étonnant. Donc, il faut savoir que le Rama Mipano, Rabbi Menachem Azaran Mipano, lui explique cela de la manière suivante. Il dit, parfois, il arrive, quand l'Eretz Israël, Pessah finisse, le septième jour de Pessah finisse, le vendredi, et que le Shabbat qui suit, est Shabbat Hol, on peut manger du pain. Comme cette année, l'année passée, ça s'est produit. Mais en France, en Khoustaharef, Shabbat est le huitième jour de Pessah. Donc en Eretz Israël, ils auraient déjà bien pu commencer la lecture des Perkei Avot. Mais s'ils avaient commencé la lecture des Perkei Avot, ils auraient été en avance d'un chapitre, et ils n'auraient pas eu suffisamment de chapitres pour arriver à Shavuot, il n'y a que 6 chapitres, donc il aurait fallu un 7e. Et on aurait été décalé entre Ousla-Aretz et Israël. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit de lire dans ce cas-là, uniquement, le dernier chapitre de Sanhedrin, qui traite de ceux qui ont droit à Olam Haba et ceux qui n'ont pas droit à Olam Haba. Pourquoi? Parce que ça a un lien avec la sortie d'Égypte et la préparation à Shavuot. Et c'est de là que nous, Rabbi Menachem Azaran Lipano, dans Hikuradin, c'est de là que vient l'habitude d'introduire la lecture de Perkei Avot par cette Mishnah. C'est un reliquat de cette habitude. Le Rav va donner une autre interprétation. Ça, c'est une interprétation technique, une raison technique comment ça s'est passé. Mais alors, quelle est la raison que ça s'est perpétué? Mais est-ce qu'il y a un sens à cela? Ah oui, en fait, effectivement, il y a un sens profond à cela. Quel est-il? Nos maîtres disent, Perkei Avot, qu'est-ce que c'est les Perkei Avot? Perkei Avot, ce sont des conseils. des attitudes qu'il faut adopter, des paroles qu'il faut savoir employer, des comportements, des midotes à acquérir. Pour chacun d'entre nous. Et la Gemara dit, celui qui veut devenir un homme pieux, man de bae, les miyavé hasida, celui qui veut être un homme pieux, il doit appliquer les perkei avot, mille de avot, les kayen, mille de avot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui veut devenir un homme pieux, il doit appliquer tout ce qui a marqué dans les perkei avot. C'est pelé, cette notion-là, c'est tellement difficile, c'est impossible à faire. Est-ce que c'est possible de faire ça? Bon. C'est une question. Cependant, nous voyons que les rabbins qui sont mentionnés dans les Perkei Avot, nous remarquons que chacun d'entre eux disait, avait l'habitude de dire une expression, un enseignement, ou une formule, où il avait l'habitude d'avoir une certaine attitude, où il faisait une mitzvah en particulier de manière spécifique, quelque chose de bien, plus que le reste. Et chacun faisait comme ça. Donc Rabbeinu HaKadosh, il a condensé les attitudes, les paroles que les uns et les autres avaient ou tenaient de manière à nous enseigner comment nous devons apprendre à nous conduire, à les imiter. Mais chacun d'entre eux ne faisait que ce que lui-même disait. Il marquait nulle part que quelqu'un adoptait les avis de l'autre, les attitudes de l'autre, ou bien les paroles et les conseils des autres. Lui, il faisait ce qu'il pensait. Alors pourquoi ce qui est valable pour eux n'est pas valable pour nous? Nous aussi, on n'a qu'à adopter une ou deux choses. Quelqu'un, il va lire les Perkei Avot, il va prendre quelque chose qui lui convient, il va dire ça me plaît, je vais faire ça, je vais faire autre chose, une ou deux choses. Pourquoi faut-il adopter toutes les Perkei Avot? C'est la question. Celui qui l'élève ne peut pas être dépassé, le disciple ne peut pas dépasser le maître. Alors nous dit le Rav qu'en fait, en réalité, c'est d'une autre dimension. Dans les générations de Mishnah, de Tanaïm, chacun d'entre eux savait, ils avaient une connaissance profonde de leur être, de l'historique de leur existence précédente. Ils savaient le pourquoi et le comment de ce qu'ils faisaient sur terre. Qu'est-ce que je suis venu réparer sur cette terre? Il y a des choses précises que je suis venu réparer. Donc les gens savaient quelle est la mida qu'il doit réparer. Quelle est la spécificité d'une mitzvah qu'il doit réparer? Il lui manquait ça. Il est venu que pour ça. Donc il s'est donné particulièrement à ces choses-là pour réparer le manque. Donc chacun avait une spécificité, une particularité dans l'accomplissement des midot, des mitzvot, de l'étude, etc. Parce que ils avaient cette connaissance. Il dit les générations ensuite ont perdu cela. Donc toi, Ben Adam, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es venu réparer. Tu n'as pas cette connaissance-là pour savoir. Donc, adonne-toi à tout. Et c'est le sens de la Mishnah qui dit plus tard. La Mishnah dit, fais attention à la mitzvah grave comme à la mitzvah qui n'est pas grave. C'est-à-dire que les gens, ils vont avoir tendance à faire les mitzvot importantes et les mitzvot moins importantes, moins graves, moins rémunératrices, on va les délaisser. Mais parce que tu ne sais pas, nous dit le Rav, peut-être que c'est la mitzvah kala, la petite mitzvah insignifiante, dans laquelle tu ne portes même pas attention, c'est celle-là que tu es venu réparer. Et tant que cette mitzvah-là, tu ne l'auras pas réparée, alors tu n'auras pas accès aux toutes les autres mitzvot que tu as fait, parce qu'il faudra revenir la réparer. Donc il dit, ben, c'est Natayot, maintenant c'est Rav, c'est le mitzvot. Il y a lieu d'ajouter ici encore une écouda très importante. Pour réaliser ces choses-là, il faut y adhérer. Il faut les étudier. Donc, il convient de s'investir dans l'étude, la compréhension, la lecture répétée, comme il dit le Messie Adécharim. Apprendre les choses de manière profonde. Les questionner. Objecter. Essayer de répondre, de trouver des réponses. Et après, si on arrive à innover dans ces Mishnayot, c'est ça tout le... La véritable dimension qui manque, qui marque la difficulté extrême d'appliquer les choses, c'est adhérer à la chose. Comment peut-on adhérer à une chose, à un concept, à une idée, à une mida, à une mitzvah? Comment? Naturellement, ça vient pas, c'est par l'étude. À force d'étudier les choses, alors on s'investit, on s'abandonne à l'étude. On s'investit totalement, on médite, on réfléchit, on pose des couches, des objections. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas compréhensible, etc. Si on a des bonnes questions, on risque, on a des chances d'avoir des bonnes réponses. Et après, on peut innover des compréhensions. On peut en faire une nouvelle, un haïdouche innové, inédit jusqu'à présent. Si on arrive à innover, à dire un haïdouche inédit, ça veut dire que la personne, quand il va lire la Mishnah, il va pas lire la Mishnah d'un Tana, il va dire sa propre Mishnah. Et c'est cela l'idée que la Torah est gravée dans le cœur. C'est ce qu'il dit, en fait, c'est ce qu'il dit le Messie de Charim en deux mots. Il dit, c'est la base et le fondement du service et de la piété. C'est que l'homme, il va comprendre, Achid Barer, Vit Amet, et Tseladam, Ahovato Baralam. Il doit analyser, éclairer et vérifier. Qu'est-ce qu'il va faire sur Terre? Ça veut dire quoi, Achid Barer, Vit Amet? C'est-à-dire qu'il a tellement vérifié la chose, il adhère totalement à la chose que ça fait partie de lui-même. Comment on y arrive? Tu poses des couches, tu donnes des tiroirs. Quelqu'un, il donne un hidouche, il va être ma'ami de la Mishnah, il va lui donner une consistance, une réalité. Cette Mishnah-là, ce hidouche-là, lui inscrit la Mishnah. La Mishnah, avec la Mida qu'elle contient, avec la Halakha qu'elle contient. Alors dans son cœur, automatiquement, cette idée-là, cette lumière-là, il lui insuffle une énergie nouvelle pour accomplir les choses. C'est ça. C'est ça le gadol alimut chemivil demar. C'est ça la grandeur de l'étude. Grande est l'étude qui amène l'homme à l'accomplissement. Pas seulement parce qu'il a appris quelque chose, c'est parce qu'il est poussé à accomplir. Donc il va accomplir de quelle sorte? Quelle manière il va accomplir? Il va accomplir avec ferveur, enthousiasme, adhésion totale, conviction. Extraordinaire! Et c'est comme ça qu'on arrive à, c'est ça ce que dit le man débaé les mains avec hasida, celui qui veut devenir hasid, les cahiers millet de avot, il doit accomplir. Comment accomplir? Étudie, tu pourras les accomplir. Yeratson, que ce limous là soit apporté au bénéfice de tous ceux qui espèrent une Yeshua. Que je vous crois accorde par le mérite du Rav, et que ça, le mérite du Rav vous accompagne, et que Béhémet, toutes les brachotes que le Rav écrit et souhaite dans son introduction à son livre, se réalisent sur vous et sur Am Israël. Baruch Adonai L'Olam.